Crédit Express, le prêt à la consommation de Banque Atlantique pour financer vos besoins ponctuels de trésorerie ou d'équipement vous propose appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Chantal Leroux.
Bonjour, bienvenue dans Appel sur l'actualité. Repas opulents, cadeaux, entraide financière, le ramadan pèse lourd sur le budget des ménages. Des pays comme la Guinée, le Tchad ou les Comores ont pris des mesures pour faire baisser ou encadrer le prix de certaines denrées alimentaires. Est-ce suffisant? Comment allez-vous célébrer ce mois de fête malgré la cherté de la vie? On attend encore vos témoignages sur WhatsApp au 33 9 693 693 70. Mais d'abord, comme chaque matin, la rédaction de RFI et des experts répondent à vos questions sur l'actualité. Une page est-elle en train de se tourner en Turquie? Abdullah Öcalan, le chef du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, incarcéré depuis 1999, a appelé la semaine dernière à la dissolution de son organisation et il a demandé aux combattants kurdes de déposer les armes. Yosunan, bonjour.
Bonjour Chantal, bonjour à Anna Andelower, votre correspondante à Istanbul en Turquie.
Vous nous appelez de Parakou au Bénin. Eh bien, Anna Andelower, justement, est en ligne avec nous. Bonjour Anne.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous êtes la correspondante donc de RFI à Ankara. Yosunan, on vous écoute.
En réponse à l'appel du chef historique du PKK, le parti a annoncé un cessez-le-feu, mais pas encore son désarmement et sa dissolution. À ce sujet, Chantal, j'ai trois questions. La première, cet appel peut-il réellement être appliqué? Abdullah Öcalan pourrait-il voir sa peine être allégée? Pour finir, Chantal, peut-on y voir un signe d'apaisement entre les Kurdes et la Turquie après plusieurs décennies de conflits?
Ok. Alors Anne, en réponse donc à cet appel de Öcalan, le PKK a annoncé un cessez-le-feu, mais pas encore son désarmement et sa dissolution. Cet appel peut-il être réellement appliqué?
Alors pour l'instant, en effet, le groupe a annoncé un cessez-le-feu unilatéral et il assure être d'accord avec l'intégralité du message de son fondateur. Mais il veut que tout le processus qui doit mener à son désarmement et à sa disparition donc soit guidé et dirigé par Abdullah Öcalan lui-même. Or, Öcalan purge une peine de prison à vie sur une île, l'île d'Imralı, en mer de Marmara, dans un isolement quasi total. Le PKK réclame que l'État turc le laisse communiquer avec toutes les composantes de l'organisation, à commencer par ses chefs militaires qui sont installés dans le nord de l'Irak. Alors, l'enchaînement des événements laisse penser que ce début le processus est assez bien chorégraphié, on va dire, et que l'État pourrait effectivement laisser Abdullah Öcalan participer activement et mener à son terme ce processus depuis l'île d'Imralı. On parle d'un calendrier de quelques mois d'ici à ce congrès, fin du printemps, début de l'été. Donc oui, pour répondre à la question de votre auditeur, l'appel a des chances d'être appliqué, mais il faut garder à l'esprit que ce processus est fragile, embryonnaire encore, et que certains peuvent avoir intérêt à le faire échouer, certaines factions au sein du PKK, certains groupes au sein de l'appareil d'État turc ou même certains acteurs ou pays étrangers.
Abdullah Öcalan pourrait-il voir sa peine allégée?
Alors, si, avec un grand si, le PKK disparaît, c'est une possibilité. En tout cas, elle a été évoquée publiquement en octobre dernier par Devlet Bahçeli, qui est le dirigeant du parti nationaliste ici, le MHP. C'est un allié du président Erdogan qui avait stupéfait à l'époque le pays en laissant effectivement entrevoir une possible libération d'Abdullah Öcalan en échange de ce qu'il appelait la fin du terrorisme. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que la Turquie avait découvert l'existence d'un nouveau processus de négociation entre l'État et le PKK. Alors, Abdullah Öcalan, on l'a dit, purge une peine de prison à perpétuité, mais il existe une notion qu'on appelle le droit à l'espoir. C'est pour les condamnés qui ont déjà passé 25 ans en prison. La Cour européenne des droits de l'homme a jugé à plusieurs reprises que sans ce droit à l'espoir, sans cette perspective d'être un jour libéré, il y avait un traitement inhumain au regard de la Convention européenne des droits de l'homme. Et Devlet Bahçeli a évoqué ce droit à l'espoir pour Abdullah Öcalan, qui, rappelons-le, est emprisonné depuis 26 ans. Donc oui, théoriquement, sa peine pourrait être allégée. Maintenant, ce n'est pas la perspective des autorités turques qui font savoir que ce n'est pas à l'ordre du jour, en tout cas pour l'instant, sans compter qu'une éventuelle libération d'Abdullah Öcalan est un sujet extrêmement sensible, on s'en doute, au sein de l'opinion publique turque.
Alors la dernière question de Yosunon, peut-on voir dans cet appel à la fin de la lutte armée un signe d'apaisement entre les Kurdes et la Turquie après plusieurs décennies, 40 ans je crois, de guérilla?
Oui, c'est ça, 4 décennies. Alors en tout cas, c'est l'objectif, encore une fois. Dans leur récent message, Abdullah Öcalan, autant que les autorités turques ont beaucoup convoqué la fraternité entre les Turcs et les Kurdes, leurs relations millénaires sur les terres d'Anatolie, aussi leur religion partagée, hein, l'islam. Donc ce processus est un processus de paix au sens large, de la fin de la guerre, mais aussi d'apaisement au sein de la société en Turquie, dont on estime que les Kurdes représentent environ 20%. Et ça, ça devra passer par des avancées démocratiques, des avancées légales, constitutionnelles, politiques, culturelles, pour reconnaître aux Kurdes une place à part entière au sein de l'État et de la société en Turquie, pour en finir avec les rancœurs, les préjugés, les paranoïas aussi, qui, depuis la fondation de la République il y a un siècle, empêchent cette coexistence apaisée. Et là, on ne parle pas d'efforts de quelques mois, mais d'un long travail de plusieurs années, d'un processus lui aussi fragile, susceptible d'être perturbé, parasité, bloqué. Mais c'est une lueur d'espoir, et pour beaucoup de Kurdes ici, c'est déjà beaucoup.
Merci beaucoup, Anand Lower, pour ces explications. À très bientôt sur l'antenne. Yosunon, bonne journée à Parakou. En Ouganda, l'opposant emprisonné Kizza Besigye a suspendu sa grève de la faim, mais ses soutiens sont inquiets. Son état de santé s'est considérablement dégradé. Chkoulolo, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez de Niamey au Niger. À mes côtés en studio, Christina Okello, journaliste au service Afrique de RFI. Bonjour.
Bonjour Chantal, bonjour à tous.
Chkoulolo, on vous écoute, vous avez la parole.
J'ai attendu que l'opposant Kizza Besigye a finalement comparu devant un tribunal civil face à des pressions nationales et même internationales. Son transfert devant un tribunal civil augmentera-t-il ses chances de libération? Qu'est-ce que cela change dans le cours du procès?
Alors, Christina Okello.
Koudoudou, bonjour. En tout cas, ses proches l'espèrent, même si les accusations contre lui sont graves. Pour mieux comprendre les enjeux, il faut revenir sur des étapes de son procès. Au départ, Kizza Besigye, je prononce à l'anglaise, a été jugé par le général cour-martial à un tribunal militaire. Il a ensuite comparu devant la cour civile de Nakawa le 21 février dernier. Mais cette cour n'avait pas la compétence pour traiter une affaire de haute trahison. L'accusation qui pèse désormais contre l'opposant, son dossier a donc été transféré à la haute cour, la seule habilité à juger ces types d'infractions. Ce transfert pourrait jouer en sa faveur, car contrairement au tribunal militaire, la haute cour est une juridiction civile qui suit les procédures judiciaires et respecte les droits fondamentaux. Les juges sont des professionnels du droit et sont tenus d'appliquer la constitution ougandaise.
Ça veut dire que les tribunaux militaires ne sont pas compétents?
Pas exactement. Ils fonctionnent différemment des tribunaux civils. D'abord, ils sont composés de militaires qui n'ont pas de formation juridique. Ce ne sont pas des juges. À l'origine, leur rôle était uniquement disciplinaire. Ils servaient à sanctionner les manquements à la discipline au sein de l'armée, pas à juger des infractions criminelles. C'est l'une des raisons pour lesquelles la Cour suprême a jugé inconstitutionnel le fait que les civils soient poursuivis devant des tribunaux militaires. Décision rendue fin janvier et décision dénoncée par le président Yoweri Museveni, qui a affirmé que même un civil, s'il est armé et mal intentionné, devrait pouvoir être jugé par un tribunal militaire, le seul à ses yeux garant de stabilité.
Il n'empêche que la pression monte contre Kampala.
Oui, et des organisations de défense des droits humains comme Amnesty International dénoncent une parodie de justice et appellent les autorités ougandaises à respecter l'état de droit. La grève de la faim de Kizza Besigye a renforcé cet élan de solidarité, amplifiant les appels à sa libération. Sous les réseaux sociaux, des personnalités politiques dont Bobby Wine relaient le hashtag Free Kizza Besigye. Même à Nairobi, où il avait été enlevé fin novembre, la mobilisation grandit. La semaine dernière, des sympathisants se sont rassemblés dans la capitale kenyane pour dénoncer les enlèvements et extraditions forcées, exigeant que justice soit faite.
Qu'est-ce que le transfert de l'opposant devant un tribunal civil change ou va changer dans le cours de son procès?
Le passage devant la haute cour, Chantal, signifie que le procès suivra des procédures légales conformes à la Constitution. La haute cour pourra examiner les violations des droits humains subies par Kizza Besigye, notamment sa détention prolongée et son extradition illégale depuis le Kenya. si la Cour reconnaît des violations des droits humains graves, elle pourrait annuler les chefs d'accusation contre lui.
Des accusations qui se sont alourdies depuis son arrestation fin novembre.
Oui, au départ, Kizabe Sigé était accusé de possession illégale d'armes à feu et de trahison. Mais lors de son passage devant la cour civile de Nakawa, ça a été modifié à haute trahison, avec des accusations aussi de tenir des meetings à l'étranger dans le but de renverser le gouvernement. Il risque désormais la peine de mort.
Il y a toutefois un bémol.
Oui, en passant devant un tribunal civil, la procédure devient plus stricte et plus longue. La haute cour ne peut pas fixer de date pour le procès tant que l'enquête du parquet n'est pas terminée. Or, le procureur dispose de 6 mois pour boucler ses investigations. D'ici là, Kizabe Sigé reste en détention, sauf si sa demande de mise en liberté sous caution est acceptée. Une décision en ce sens est attendue lors de la prochaine audience, prévue ce vendredi 7 mars.
Merci Christina Okello pour cet éclairage. Shkulolo, j'espère que vous êtes satisfait. Je vous souhaite une bonne journée à Niamey. Retour sur une scène qui a fait le tour du monde vendredi. Volodymyr Zelensky, tensé, humilié, menacé par Donald Trump dans le bureau ovale de la Maison Blanche. Un affrontement verbal d'une violence inédite entre deux chefs d'État. Le président ukrainien était venu signer un accord cadre avec les États-Unis sur les minerais ukrainiens. Accord qui a volé en éclats. Alseni, bonjour.
Oui, bonjour madame.
Vous nous appelez de Monrovia au Liberia. En ligne avec nous, Emmanuel H. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes adjoint scientifique à l'IFP Énergie Nouvelle et directeur de recherche à l'IRIS. Alseni, c'est à vous. On vous écoute.
Zelensky et Trump n'ont finalement pas signé un accord sur les minerais ukrainiens. Pourquoi n'arrivent-ils pas à se mettre d'accord à ce sujet?
Emmanuel H.
Quel est l'intérêt pour les États-Unis d'accéder à ces terres rares?
Voilà, donc la première question d'abord, eh bien, pourquoi cet accord a-t-il volé en éclats? On a vu les images, hein. Pour vous aussi c'est clair, Donald Trump et J.D. Vance, son vice-président, n'avaient aucune envie de parvenir à cet accord, ou est-ce qu'ils étaient sûrs que sous leur pression, Volodymyr Zelensky allait tout leur céder?
Alors effectivement, lorsqu'on a un accord, notamment sur les métaux ou les minerais, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà pour faire un accord, il faut être deux. Donc bien évidemment, il y a une des parties qui réclamait sûrement beaucoup trop, ou les termes de l'accord ne suffisaient pas. On peut penser notamment que les garanties de sécurité qui étaient demandées par Zelensky, notamment garanties de sécurité sur l'Ukraine et sur les frontières de l'Ukraine, ne faisaient pas partie de l'accord ou n'étaient peut-être pas assez explicite. On peut aussi imaginer qu'il y avait une problématique sur les compensations financières. On a des chiffres complètement atmosphériques et qui ont été prononcés. On parlait de 500 milliards de dollars, alors que finalement, on n'a pas forcément une réalité concrète de ce que pourraient rapporter les minerais et les métaux du sous-sol ukrainien. Donc, si vous voulez, il peut y avoir énormément de choses, notamment les garanties sur autour des mines. Pour faire de la mine, il vous faut des infrastructures et donc il faut aussi des investissements massifs pour développer l'Ukraine. Donc toutes ces raisons font que potentiellement il n'y a pas eu d'accord au-delà de la violence verbale qu'on a pu voir vendredi soir.
Quels sont les minerais qui étaient concernés par l'accord?
Alors on peut penser que ce sont tous les minerais, j'allais dire, qui constituent le sous-sol ukrainien. Alors en Ukraine, on aurait autour de 5% des ressources mondiales de minerais, et plus spécifiquement, ce qui est intéressant en tout premier lieu, c'est le titane. Le titane, pourquoi? Parce que tout simplement, l'Ukraine déjà produit du titane et on aurait potentiellement des réserves importantes. Et le titane, il est utilisé notamment dans l'aéronautique ou dans les équipements militaires. C'est quand même un enjeu assez sensible aujourd'hui. On peut aussi penser aux métaux qui constituent les batteries de véhicules électriques, notamment le lithium. On dit que, quand je dis on dit, c'est que les réserves ne sont pas complètement, j'allais dire, estimées. On estime que l'Ukraine a les troisièmes réserves de lithium d'Europe. Il y a aussi beaucoup de graphite. Et donc ça, ce sont deux constituants. Et puis potentiellement, il y a aussi des terres rares. Alors pour l'instant, il y a pas les réserves ne sont là pour le coup pas évaluées, mais potentiellement, l'Ukraine aurait des terres rares sur son territoire. nécessaires. Et ce qu'il faut voir, c'est que ces terres rares, elles sont nécessaires notamment à la transition numérique et aussi pour ce qu'on appelle les aimants permanents. Aimants permanents qu'on va retrouver à la fois dans les moteurs de véhicules électriques, dans les rotors d'éoliennes, mais également dans les équipements militaires, notamment pour tout ce qui est guidage, pour tout ce qui est les missiles, par exemple.
Et paradoxalement, ces terres rares se trouveraient en majorité dans la partie ukrainienne occupée par les Russes.
Alors, effectivement, alors il y a pas que les terres rares. Hein, une partie aussi des réserves de lithium serait aussi contrôlée, serait dans les territoires qui sont contrôlés par la Russie. Le lithium, une partie des terres rares. Donc, ça veut dire qu'il y a une partie du sous-sol, si vous voulez. Bien évidemment, il y a un besoin de garantie de sécurité. Mais j'allais dire, même pour des entreprises américaines qui seraient venues développer le territoire ukrainien, il y a un tel niveau de risque. Risque à l'heure actuelle, hein, vous imaginez quand même, risque d'avoir une guerre à quelques kilomètres. Et puis le risque financier, il est absolument gigantesque dans un paysage minier qui est déjà, j'allais dire, très très cyclique.
Merci beaucoup Emmanuel H. d'avoir répondu à nos questions. Alcéni, merci de nous avoir appelés. Bonne journée à tous les deux. L'un des plus grands mystères de l'histoire de l'aviation va-t-il être résolu? 11 ans après la disparition du vol MH370, les recherches ont repris dans l'océan Indien. Khalilou, bonjour.
Bonjour Chantal, bonjour à tous les auditeurs.
Vous nous appelez de Cotonou au Bénin, en ligne avec nous, Gilles Diars, bonjour. Gilles ?
Oui, bonjour.
Bonjour, vous êtes contrôleur aérien et auteur du livre Le mystère du vol MH370 aux éditions JPO. Khalilou, on vous écoute.
11 ans après le crash, les recherches ont repris pour tenter de résoudre et le mystère concernant l'avion de Malaysia Airlines. Alors, pourquoi reprendre les recherches tant d'années après le drame et comment vont-elles s'organiser?
Alors Gilles Diars, pourquoi le gouvernement malaisien a-t-il accepté l'offre de cette société britannique qui s'appelle Ocean Infinity de reprendre les recherches?
Alors, il faut bien préciser que la Malaisie, pour l'instant, à ce jour, n'a toujours pas accepté la proposition d'Ocean Infinity.
Ah, je pensais que c'était fait.
Alors, en fait, non. La dernière nouvelle que l'on a, c'est qu'ils ont accepté le principe de recherche, mais le contrat n'est toujours pas signé.
Mais les recherches, elles ont commencé ?
Elles ont commencé parce que la société, ça fait déjà plus de 2 ans qu'ils ont proposé de reprendre les recherches. Ça fait déjà 1 an que la Malaisie est en négociation avec eux pour, on va dire, leur verser une prime s'ils trouvent l'avion, en fait. S'ils le trouvent pas, en fait, ils seront pas payés. Il n'y a toujours rien qui est signé à ce jour. Et ce qu'on pense, c'est que la société, vu que ça traîne, ils avaient un navire qui était disponible, ils l'ont envoyé sur zone, histoire de forcer un peu la main de la Malaisie, justement, par rapport à ce contrat qui traîne depuis déjà plus d'1 an.
Quelles étaient les conclusions des enquêtes précédentes, en résumé?
Alors, ils n'ont rien conclu parce que, pour l'instant, tant qu'on n'a pas les boîtes noires, faut savoir que les enquêteurs n'ont pas suffisamment d'éléments pour affirmer avec certitude ce qui s'est passé à bord de cet avion. Donc, il y a pas mal de pistes qui demeurent. Néanmoins, quand on creuse pas mal le fonctionnement de l'avion, toutes les infos que l'on a sur les données radar satellites, on a quand même un élément qui ressort de manière vraiment factuelle, c'est qu'on a quelqu'un qui était aux commandes de cet avion. Donc après, les raisons de ce détournement, ça reste une enquête de police, c'est à l'enquête de police de le déterminer, mais on a quelqu'un qui est vraiment aux commandes de cet avion, ça c'est sûr.
Vous voulez dire quelqu'un qui a pris les commandes de l'avion au détriment des pilotes?
Alors, soit c'est un des pilotes, parce qu'en fait, quand on se rend compte qu'on étudie tous les dysfonctionnements qu'il y a eu à bord de cet avion, on se rend compte que pour désactiver certains systèmes, ça nécessite des connaissances qui sont des connaissances non seulement de pilote, mais également des connaissances sur l'avion en lui-même. Et ça, ben, il n'y a que 2 personnes à bord de cet avion qui avaient des connaissances pour désactiver ces systèmes, ce sont des pilotes. Donc forcément, de mon point de vue, c'est un des pilotes, ça c'est sûr.
Je reviens aux recherches en quelques mots. Les investigations se déroulent dans une zone de 15 000 km² de l'océan Indien, une zone qui n'avait pas été explorée par l'Australie il y a 11 ans.
Alors oui et non, c'est qu'actuellement, le navire est en train de faire route vers l'Australie. Il a déjà investigué certains points, et ces points qui ont été pour l'instant investigués, c'est des points qui avaient déjà été cartographiés par les précédentes opérations de recherche. Néanmoins, il y avait des trous de détection à certains endroits, donc ils ont envoyé ce qu'on appelle des drones sous-marins. de façon à combler ces trous de détection qu'il y avait, de façon à être certain que la zone qui avait été couverte, ben on est certain que l'avion n'est pas là. Donc là, le navire va faire une escale en Australie pour ravitailler. Il va retourner ensuite sur zone pour aller investiguer d'autres zones de recherche.
Merci beaucoup, Gilles Diars, d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre livre, Le mystère du vol MH370, paru aux éditions JPO. Kalilou, bonne journée.